Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Si vous avez 20 ans ou 21 ans et que vous avez une société qui vous met une pression dingue pour dire vous devez avoir trouvé le sens de votre vie et vous devez tous être passionné et ceci et cela, c'est souvent des gens qui l'ont pas trouvé qui vous racontent ces conneries et que le sens de sa vie, ça se construit, ça peut durer 5, 10, 20 ans. Moi aujourd'hui, j'ai trouvé une partie avec Ecosia. S'il faut, dans 3 ans, 4 ans, je suis plus sur Ecosia parce qu'il y a autre chose qui m'appelle. Et c'est ça la beauté, en fait, quand tu fais confiance, c'est qu'il y a des choses qui se présentent que tu pourrais même pas imaginer. Tu vois, il y a 5 ans, si tu m'avais dit tu vas travailler pour un moteur de recherche qui plante des arbres alors que de formation t'es psy et que t'as jamais été dans ce milieu-là, je t'aurais dit mais de quoi tu parles ?
Nous avons tous des milliers de graines en nous, des idées, des envies, des inspirations que nous avons le choix de transformer en action ou non. Quelques-unes pousseront facilement, d'autres ne germeront jamais. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Nous pouvons en contrôler certains, mais la plupart sont tout simplement liés au contexte, à la qualité de la terre, à la météo, aux limaces qui pourraient couper les premières feuilles une fois que votre idée a commencé à pousser. Nous pouvons bien sûr protéger nos jeunes plants, nous pouvons les défendre contre certains dangers extérieurs, en les abritant sous une serre par exemple. Pour Ferdinand, les graines qui germent naturellement, sans effort particulier, sont celles qui donneront les plus belles plantes. Notre société pense trop souvent que nous devons faire grandir toutes les idées, exploiter chaque petite parcelle pour en tirer un maximum de profit. Nous forçons certaines plantes à survivre alors que la nature avait décidé de les laisser mourir. En parallèle, certaines choses poussent alors que tout le monde essaye de les étouffer. Mais certains projets, qu'ils soient surprenants ou dérangeants, trouveront toujours un peu de lumière pour grandir. En tout cas, c'est à peu près à ça que ressemble la philosophie de vie de Ferdinand Richter. Ancien sportif de haut niveau, un croisement de vie a infléchi son chemin vers une vie plus en harmonie avec la nature. Cette nouvelle trajectoire de vie, il nous en parle ici. Aujourd'hui responsable France d'Ecosia, Ferdinand nous prouve dans son parcours que tout est possible et qu'il n'y a jamais de voie toute tracée. Dans cet épisode, il nous parle de notre rapport au monde, à soi et à la nature. Il nous décrit c'est pourquoi notre monde ne tourne plus si rond, ce qui cloche, ce qui bug, ce qui dérange, ce qui nous empêche de vivre en connexion à soi et à la nature. J'espère que Ferdinand aura éveillé quelques consciences et planté des graines dans vos vies. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Hop, c'est parti. Salut Ferdinand, merci de partager ce moment avec nous pour parler de toi et de ta vie. J'ai tellement de questions pour toi. Et en même temps, je vais devoir aller à l'essentiel pour rester dans un format assez court. Donc je vais commencer par une question que je pose à tous mes invités, qui est de te présenter personnellement.
Déjà, bonjour tout le monde, salut à toi et merci de me proposer cet échange. Donc, qui suis-je? C'est ça la question, hein?
Oui, c'est ça.
la fameuse question, comment se résumer en quelques phrases? Donc actuellement, je suis responsable France du moteur de recherche Ecosia, donc qui plante des arbres. Et de formation, moi j'ai un parcours qui était un peu à gauche à droite, donc j'étais sportif de haut niveau dans le rugby, c'est la raison pourquoi j'habite en France aujourd'hui. De formation, je suis psychologue du travail et coach, et donc j'ai accompagné dans un premier temps des entrepreneurs et des leaders dans les grands groupes industriels. Aujourd'hui, je coach toujours, mais c'est plus pour des personnes qui sont vraiment en quête de sens, qui veulent se relancer dans autre chose et qui peut-être cherchent un petit peu de soutien pour sortir un peu plus du système plutôt que de l'encourager. Et j'ai une passion pour la permaculture, donc c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et aussi tout ce qui est, ben, on l'appelle largement développement personnel, mais c'est plus pour moi l'exploration personnelle de son potentiel personnel. Et c'est en lien avec les spiritualités du monde. Donc il y a le chamanisme qui m'intéresse beaucoup. Voilà, plein de choses que j'ai découvert notamment grâce à ma compagne qui est là-dedans depuis longtemps. Et la dernière chose que je peux dire, c'est que je suis en train de devenir papa. Et c'est peut-être une aventure incroyable que je suis aussi en train de démarrer et qui est toute nouvelle pour moi. Donc voilà, c'est encore une partie de moi que je connaissais pas du tout, que je suis en train de découvrir doucement, qui est à la fois magique et à la fois parfois vraiment angoissante, parce que c'est tellement nouveau que je sais pas vers où ça va. Voilà qui je suis aujourd'hui.
Ok, génial. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu avais 20 ans?
Attends, 20 ans, je venais de venir à Toulouse pour jouer au rugby au Stade Toulousain. Donc j'étais vraiment dans un état d'esprit de réaliser un rêve de gosse qui était essayer de devenir professionnel de rugby. Je me posais pas trop de questions sur la vie, sur l'écologie, tout ça. C'était vraiment pas quelque chose qui était présent. C'était cette aventure qui était le rugby et j'ai tout misé là-dessus en fait. J'ai arrêté mes études, j'ai tout fait pour venir jouer en France. Et j'étais d'après moi aussi dans un plaisir terrible de découvrir quelque chose dont je rêvais depuis toujours, c'est-à-dire notamment le Stade Toulousain, qui est quand même une référence dans le rugby. Et à la fois, maintenant, je peux dire, dans un déni aussi de pas mal de parties de moi, et notamment de mon corps. Donc, c'était une relation, on va dire, très violente avec moi-même, avec le corps, avec ce que je pouvais ressentir, avec la sensibilité que j'ai. C'était, ouais, ambigu, à la fois sur un chemin qui est chouette, et à la fois, je savais pas à quel point il y avait une partie de moi qui me manquait.
Merci pour cette petite introspection. On va se projeter quelques années plus tard. Comme tu nous le disais, tu as fait du coaching en entreprise et au bout de 4 ans, tu as voulu changer de vie. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de transition? Finalement, pourquoi avoir voulu arrêter?
Alors, je me rappelle encore, c'est étonnant parce que je me rappelle la fameuse goutte qui fait déborder le vase. Et quand j'ai arrêté, j'ai juste craqué. Et j'ai dit, donc j'étais déjà avec ma compagne il y a déjà 10 années, et je lui ai dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais je peux plus. Et la difficulté à l'époque, c'était que je savais pas pourquoi. Je savais pas qu'est-ce qui se passait vraiment, c'était un peu ambigu, mais en tout cas, il y avait quelque chose profondément qui ne m'allait pas, et surtout quelque chose profondément qui me manquait. Donc c'est juste, j'arrivais plus à tenir. C'est comme si j'essayais vraiment de correspondre à quelque chose, de faire quelque chose, de faire que ça tienne, et à un moment donné, ça tenait plus, et j'avais plus la force de le faire tenir, en fait. Et quand j'ai arrêté, donc c'était vraiment un besoin de me sortir de quelque chose sans forcément savoir qu'est-ce que c'était. C'est ça qui est le plus difficile. Et du coup, j'ai plus, on va dire, fui la réalité dans laquelle j'étais, plus qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai revendu les parts de ma boîte, je suis parti en voyage, j'ai cherché des techniques ou des approches qui m'aidaient à m'en sortir. Voilà, si je vous permets d'aller un peu plus loin, le sentiment que j'avais à l'époque, et c'était vraiment pas difficile, pas difficile, tu vois, c'est un joli lapsus, c'était vraiment difficile. Je dirais, c'était pas difficile d'en sortir parce que j'avais plus le choix il fallait que je sorte. Par contre, le ressenti, c'était, il y avait des pensées suicidaires, il y avait des pensées de, il faut que ça s'arrête. Et quand on s'identifie à quelque chose et d'un coup, on sent qu'il faut que ça s'arrête sans savoir qui on va être une fois qu'on a arrêté, ça peut être très très dur. Et du coup, la seule chose qui m'a aidé, c'est que j'avais démarré de la méditation et j'ai pris conscience que cette partie de moi qui avait envie de mourir, qui avait besoin de mourir, c'était pas totalement moi. Ça veut dire, c'était qu'une partie de moi. Et du coup, je me suis dit, ok, très bien, si je fais confiance à ça, comment je peux aider cette partie-là à mourir? Et c'est ça qui m'a un petit peu ouvert sur des chemins un petit peu d'exploration personnelle, le chamanisme, des anciennes cultures. Parce que il y a des techniques qui peuvent aider à ça, à dire comment je peux faire le deuil de qui j'ai été pour accueillir déjà le vide, parce qu'une fois qu'on n'est plus, on découvre le rien, et après comment je peux lentement me reconstruire.
Et donc tu nous as dit que tu t'intéressais au chamanisme et que ça avait changé ta vie. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le chamanisme et quelle expérience tu as eue avec ça?
Expliquer, je crois qu'il y a 10 000 explications. Je ne sais pas si on peut l'expliquer. Moi, ce qui m'a aidé, et c'était même avant le chamanisme, c'était de revenir dans le corps. Ça veut dire que j'ai essayé des thérapies classiques où on parle, par exemple, parce que j'avais de la souffrance. Donc, j'ai cherché de l'aide et heureusement que j'ai eu ce réflexe de dire « je vais me faire accompagner » parce que ça, on peut se sentir très seul là-dedans. Mm-hmm. Et l'entourage ne peut pas, parfois ne comprend pas. Quand on a un bon boulot, on gagne bien sa vie, pourquoi d'un coup on veut tout arrêter? Mais les thérapies classiques, en fait, ça me laissait beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête. Et j'ai l'impression que je tournais en rond et que ça m'aidait pas vraiment. Donc, j'avais besoin d'autre chose. Et du coup, j'ai essayé de trouver des approches plus corporelles. Donc, c'était avec la méditation, mais après aussi avec de la respiration, la danse. Et ça, ça m'a amené vers, en effet, quelque chose, une approche qui s'appelle la quête de vision. Donc la quête de vision, c'est un rite de passage qu'on retrouve dans les traditions surtout amérindiennes, qu'on connaît aussi, c'est aussi en Europe, mais chez les Amérindiens c'était quand même très présent, pour aider en fait notamment les jeunes garçons à passer à l'âge adulte. On part dans la nature seul, on se confronte à soi-même sans les fringues, sans le côté social qu'on peut connaître. Et on va demander, et c'est là que ça devient un petit peu plus spirituel, on va dire, on va demander aux esprits de nous aider à savoir qui on est. Et moi, ça m'a fasciné, parce que je me suis dit, punaise, pourquoi pas? Et en fait, le déclic, c'était que je suis parti faire une quête de vision au Québec. Et ça a ouvert sur plein de choses. Et on va dire, si je dois résumer le chamanisme, c'est pour moi juste accepter qu'il y a plus que le côté matériel des choses. Donc que les choses ont une vie, que un arbre c'est un être vivant, c'est pas juste du bois, et du coup il y a peut-être une intelligence qu'on sous-estime souvent, qui est présente dans la nature et qu'on peut peut-être interagir avec elle. Tout ce que j'ai découvert dans le chamanisme, c'est tout simplement des gens qui prenaient un petit peu ça au sérieux, qui prenaient les rêves au sérieux, qui essayaient d'explorer toutes ces parties qu'on peut avoir en nous et qui nous invitaient vraiment à nous reconnecter à notre sensibilité, à notre intuition. Après, j'ai poussé ça un petit peu plus loin avec différentes expériences, notamment au Mexique. Voilà, c'est passionnant et il n'y a pas de fin. Et c'est vraiment un chemin de vie, je dirais, mais aussi c'est un chemin qui est pas forcément facile parce que se regarder en face et découvrir qui on est, c'est pas juste les beaux contés qu'on a en nous, mais c'est aussi... découvrir tout ce qu'on veut pas voir, tous les côtés laids qu'on peut avoir en nous. Moi, j'étais beaucoup dans un rapport violent, donc de découvrir à quel point je pouvais être violent contre moi-même, mais parfois aussi contre les autres, c'est pas facile à accueillir ça et à pas se juger et à apprendre à s'aimer malgré tous les défauts qu'on peut avoir.
Et justement, quel est ton rapport au quotidien avec la nature et comment cette conscience écologique a cheminé en toi?
Mon rapport avec, en fait, c'est que aujourd'hui, je fais plus la différence entre la nature et ma nature, ou la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la nature extérieure à moi et moi. C'est très interconnecté, on va dire. Je fais partie d'un écosystème qui je dépends de lui, il dépend de moi, et etc. Et donc la nature aujourd'hui, on va dire, c'est notamment dans mon travail, c'est quelque chose, je sens, on a besoin d'en prendre soin. C'est surtout ça, en fait, je dirais. C'est que j'essaye, en tout cas, dans mon quotidien, d'avoir un rapport plus doux avec moi-même, mais aussi avec les autres, et d'être moins dans quelque chose de violent, parce que ça, quand je vois ce que l'être humain est capable de faire dans ce monde, ça me touche, ça me rend triste, ça me met en colère. Et je pense qu'il y a autre chose qu'on peut faire, tu vois. Il y a autre chose qu'on peut faire que de l'exploiter, en fait, la nature. On peut vivre en harmonie avec elle sans l'exploiter, et je crois que ça, c'est extrêmement important, et ça démarre aussi avec moi-même, tu vois. C'est de dire, arrête d'être trop dur avec toi-même, de toujours essayer de faire le maximum possible. C'est déjà remettre un peu de douceur, de bienveillance dans les rapports que je peux avoir avec moi-même et avec les autres.
Donc aujourd'hui, tu travailles chez Ecosia. Ecosia, pour ceux qui connaissent pas, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres. C'est fabuleux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à travailler ici?
Alors le vrai changement en fait de fond qu'il y a eu, tu sais, dans la transition, donc je t'en ai parlé juste avant, c'est qu'à un moment donné, tu lâches prise et au lieu de vouloir contrôler ta vie, tu fais confiance. Et c'est super difficile dans un premier temps, c'est très facile à dire comme ça, mais le faire au quotidien, c'est pas si facile que ça. Mais la résultante de se faire confiance, c'est que je suis tombé sur Ecosia, j'ai envoyé une lettre de candidature, hein, très classique, et une semaine après, j'avais signé et j'avais démarré chez Ecosia. Alors que j'étais pas du tout parti pour ça. Donc moi, j'étais parti pour être maraîcher dans le Gers, parce que je me suis dit, il faut que je prenne soin de la terre et j'aille là-dedans. Mais au fur et à mesure de mes journées, voilà, j'ai exploré plein de pistes. Et c'est ça la beauté en fait quand tu fais confiance, c'est qu'il y a des choses qui se présentent que tu pourrais même pas imaginer. Tu vois, il y a 5 ans, si tu m'avais dit tu vas travailler pour un moteur de recherche qui plante des arbres, alors que de formation t'es psy et que t'as jamais été dans ce milieu-là, je t'aurais dit mais de quoi tu parles. Et en même temps, maintenant je suis là, ça fait 4 ans et c'est une très belle aventure. Tu vois, c'est ça qui est surprenant quand on lâche prise, ça veut dire que toi, par exemple, si vous cherchez un métier et que vous savez, vous êtes un peu paumé, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise ce qu'on croit devoir ou vouloir, de saisir les opportunités, ça veut pas dire qu'on doit rester inactif, mais de se laisser surprendre et de dire si la vie te propose un stage de boulangerie alors que t'as jamais pensé le faire, mais si tu sens vraiment que c'est juste, fais-le, parce que ça va peut-être te lancer sur une piste que t'aurais jamais imaginée. Et ça, c'est passionnant, en fait. Tu découvres que la vie, il y a une intelligence qui fait que parfois, même si tu le sais pas encore, tu as une place si tu juste acceptes qu'elle est peut-être différente de celle que tu avais prévue.
Et c'est quelque chose qui est difficile, je trouve, à appliquer dans son quotidien parce qu'on a justement tendance à tout contrôler et à tout prévoir au mois près, à se projeter dans une année, se dire où est-ce que je vais être, il va falloir que j'ai coché telle case, que je sois dans telle entreprise, que je m'insère ici. Et finalement, en voulant tout contrôler, ce qui est naturel, comme tu dis, on s'éloigne, on passe peut-être à côté d'opportunités comme ça qui n'étaient pas prévues sur notre route. Et du coup, quel est ton rôle dans ce projet Ecosia? Quelles graines tu plantes, toi, personnellement, pour faire évoluer ce projet?
Ah, j'aime bien ton image de quelles graines tu plantes, parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire. Ou plutôt, moi, comment j'ai démarré, ça va peut-être le mieux l'expliquer, c'est que Ecosia, moi, en principe, quand j'ai démarré avec Ecosia, le but, c'était de le développer en France, ça veut dire de trouver des personnes qui ont envie d'utiliser Ecosia et de faire partie de l'aventure. Mais je l'ai vu un petit peu comme la France est un magnifique jardin, qu'il y a malheureusement beaucoup de monoculture qui est encore présente. Donc là, tu vois, tu peux parler d'agriculture, mais tu peux parler de la société en général. Tu vois, le système éducatif, c'est quand même pas mal une monoculture encore. Et moi, je me suis dit, ok, il y a peut-être plein de petites plantes qui poussent déjà dans cette monoculture, plein de coquelicots qui sont un petit peu partout. Et moi, en tant que responsable France, peut-être que je peux démarrer par les trouver, ces coquelicots, et voir si je peux les soutenir. Parce qu'être un coquelicot dans un champ de monoculture, c'est pas toujours facile, tu te sens seul, t'as pas forcément les ressources qui t'aident à vraiment pousser. Et donc ça, c'était ma priorité avec Ecosia, c'est de se dire, ok, pour développer Ecosia, je vais essayer de me connecter à tous ceux qui sont déjà en train de créer un monde un petit peu plus, on va dire, joyeux, coloré, diversifié. Et je vais voir comment est-ce que Ecosia, avec les moyens qu'on a, on peut essayer de les soutenir et après le diffuser à grande échelle. Donc ça, c'était un petit peu ma stratégie, si on veut. Et forcément, en retour, ça aide Ecosia à gagner en visibilité. Donc c'est un truc gagnant-gagnant. Mais c'est surtout ça. Et pour moi, je voyais cette urgence que pour que le nouveau monde apparaisse davantage, il faut qu'on relie les uns aux autres ceux qui font déjà. Parce que depuis 10 ans, souvent tous ces acteurs, ils ont tellement l'habitude de fonctionner seuls parce qu'ils ont été précurseurs, que maintenant, si on les aide pas à se connecter, à travailler en réseau, à les mettre en lumière, on va dire, ça peut être très difficile, alors qu'il y a déjà plein de choses qui se passent partout en France. Et c'est ça qui est magnifique. Ça dépend, en fait, sur quoi on focalise notre attention. Soit vous êtes dans les médias classiques et vous voyez que le pire de tout ce qui se passe en France et dans le monde. Soit vous commencez à mettre la lumière sur toutes les initiatives qui sont en train d'exister déjà, et vous essayez de les soutenir. Et parfois, ça implique aussi que vous allez travailler gratuitement pour l'une. Après, vous allez peut-être créer un métier qui n'existait pas encore. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer comme ça. Et c'est ça qui est passionnant actuellement, c'est qu'on est en train de voir comment ces initiatives voient le jour, sont de plus en plus médiatisées. Je crois pas qu'on soit en train de passer d'un monde à l'autre, mais on est en train de construire un monde en parallèle de l'autre, de l'ancien. Donc c'est vraiment deux choses qui peuvent avoir lieu en parallèle, et c'est ça qui est intéressant. Donc actuellement, j'essaie toujours forcément de travailler avec un monde qui commence à disparaître. On le voit avec l'aviation qui s'écroule, des choses comme ça. C'est mine de rien, derrière des grandes entreprises, il y a des êtres humains qui peuvent souffrir de ce qui se passe. Donc j'essaie toujours de faire la différence entre l'organisation et les êtres humains derrière. Et en même temps, il y a tous ceux qui en cherchent des solutions, qui ont déjà des solutions et qui font des trucs magnifiques. Et c'est comme ça que j'essaye avec Ecosia un petit peu d'apporter ma pierre, on va dire.
De planter ta petite graine.
Exactement.
Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'arbres qui ont été plantés grâce à ce moteur de recherche. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous présenter concrètement comment ça se passe à partir du moment où un utilisateur fait une recherche sur Ecosia? Mmh. Et le moment où un arbre est planté, comment le lien est fait, qui plante les arbres et où? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout le processus qu'il y a derrière notre écran finalement?
Oui, bien sûr. Donc le modèle économique d'Ecosia, c'est comme Google. Hein. Tu fais une recherche, en fonction de ta recherche, il y a quelques annonces publicitaires qui apparaissent, et si jamais tu cliques dessus, ça génère quelques centimes. Et comme on est très nombreux à l'utiliser, mine de rien, ça fait pas mal d'argent. Donc, une fois qu'il y a, voilà, cet argent qui est généré, ben, il y a les frais d'une entreprise, donc les salaires, les bureaux qu'on a quand même, qui sont payés. Et après, il y a l'argent qui reste. Donc, l'argent qui reste, c'est ce qu'on appelle les bénéfices. Et ces bénéfices-là, ils sont, chez nous, reversés à des associations partenaires qui sont un peu partout dans le monde, qui plantent des arbres. Donc aujourd'hui, on est dans 21 pays, donc c'est surtout dans les pays qui sont déjà très fortement touchés par le réchauffement climatique, les hotspots de biodiversité, on appelle ça, et où souvent les populations sont très pauvres, donc elles n'ont pas forcément les moyens de le faire si elles n'ont pas du soutien. Et l'idée, c'est d'utiliser l'arbre pour régénérer les écosystèmes. Donc au-delà de planter des arbres, l'idée, c'est vraiment de voir l'arbre comme un outil incroyable, la meilleure technologie pour restaurer un écosystème que malheureusement, souvent, c'est l'être humain qui l'a détruit. Donc ça peut être lié à de la déforestation, comme au Brésil, ça peut être tout simplement la désertification, comme au Burkina Faso. Et l'arbre, en fait, il va aider à ce que, ben déjà, il y a de l'ombre, ça veut dire que le soleil il tape moins sur le sol. Les racines vont aider à ce que l'eau rentre dans le sol et permettre à d'autres plantes de revenir. Donc on a sur place dans le monde, je crois qu'il y a un peu plus de 30 000 personnes aujourd'hui dans le monde qui, grâce à Ecosia, plantent des arbres et régénèrent les écosystèmes.
Fabuleux. J'aurais plein d'autres questions sur Ecosia, mais j'aimerais aussi aborder d'autres sujets avec toi.
Ouais.
Comment tu pourrais décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui?
Un joyeux bordel. Ouais, c'est encore une fois, ça dépend toujours de quel endroit on regarde. Dans la meilleure, dans la pire des crises, tu peux avoir les plus belles opportunités. Voilà. Et c'est ça qui est difficile en ce moment parce que il y a tellement de choses qui se passent qui sont difficiles, c'est que par moment on ne voit pas aussi les belles choses qui se passent. Ouais, c'est difficile à décrire. C'est toujours difficile de décrire le présent parce que on n'a pas encore le recul de voir qu'est-ce qui se passe. Moi personnellement, ce que je vis dans ce monde, c'est étonnant, mais c'est un éveil des consciences incroyable. Notamment grâce à Internet, qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est assez nouveau. Et avec de plus en plus de gens qui peuvent partager leur vérité. Le problème, la difficulté avec ça, c'est qu'on ne sait plus croire qui, on ne sait plus quelle est la vérité, on ne sait plus à qui faire confiance. Et ça peut être très 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 perturbant. Parce que on a l'habitude, notamment par notre éducation, d'avoir des maîtres ou d'avoir des gens qui nous disent « c'est ça la vérité ». Et aujourd'hui, en fait, le seul moyen d'après moi, ou pour moi en tout cas, mon moyen de vivre avec ça, c'est de dire « Ok, parmi tout ça, j'arrête de tout regarder et j'essaie de revenir à l'intérieur pour sentir c'est quoi ma vérité. » Et et c'est pas facile, hein. C'est au lieu d'être tout le temps à l'extérieur, et d'après moi le confinement il y joue un petit peu, c'est comme si la vie nous disait maintenant arrêtez de fuir votre présent, de fuir votre corps, arrêtez de voyager tout le temps, d'être tout le temps à l'extérieur, et maintenant on va vous forcer à revenir à l'intérieur et à vous confronter un petit peu à vous-même, ou du moins à votre cocon dans lequel vous vivez. Et je trouve ça intéressant, parce que ça permet, en tout cas moi ça m'a permis de vraiment découvrir autre chose, et d'après moi c'est important de voir ça en fait, ce qui se passe en nous, et de se dire ok, il y a peut-être des choses à l'intérieur de moi que je peux changer, et qui finalement si je les change, elles peuvent avoir un impact positif sur l'extérieur.
Donc pour toi on a tous des milliers de petites graines en nous, des envies et des inspirations, qu'on a le choix de transformer ou pas en action. Et comment ces envies et ces petites graines, on pourrait les transformer en action?
Exactement, et tu sais, parfois, déjà, la présence peut être même plus importante que l'action. Si je prends l'exemple de Greta. Greta, dans un premier temps, elle a pas fait grand-chose. C'est ça qui est passionnant dans ce qu'elle a réussi à faire. C'est-à-dire que elle s'est juste assise quelque part, avec une revendication, et ça montre à quel point aujourd'hui la non-action peut avoir un impact incroyable. Et moi je crois beaucoup qu'aujourd'hui, avant d'agir, il est important de justement se poser et voir qu'est-ce qui est vraiment juste, parce que sinon on risque de faire plein de choses, mais le monde actuellement, notamment la nature, a aussi besoin qu'on la laisse un peu tranquille. Et pour moi, c'est une contradiction qui est pas facile, et j'essaye de me confronter à ça un peu tous les jours. C'est de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'agir, ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de moins agir et de laisser faire?
Ou d'agir mieux.
Ou d'agir mieux. Exactement.
Ouais. Étant introverti, il paraît que tu as une petite technique qui a changé ta vie pour t'aider à libérer tes émotions. Est-ce que tu peux nous partager tes conseils à ce sujet?
Là, oui. alors je sais pas quelle technique tu fais référence, parce qu'il y en a plein. Il y en a une qui a vraiment changé ma vie, ça s'appelle la respiration holotropique. C'est une technique en fait de... Ah, comment je l'explique ? C'est de la respiration et de la musique qui t'aide à provoquer une forme de libération émotionnelle. En tout cas pour moi ça a fait ça. Et ça, en effet, ça a changé ma vie, parce que j'avais des blocages émotionnels et que j'arrivais pas à m'en libérer. En fait, c'était tellement incrusté que si tu me disais mais pleure, mais je te disais mais comment, tu vois, c'est et que j'arrivais pas en fait. J'étais tellement bloqué sur ma sensibilité que j'arrivais plus à me connecter à ça, et que j'avais besoin d'une technique un peu plus physique pour que certains blocages puissent tomber, et pour que je puisse libérer mes émotions et me reconnecter en fait à ma vulnérabilité et ma sensibilité. Et c'est vrai que ça a eu un impact incroyable, donc ça c'est une des techniques, ouais, qui m'a vraiment changé la vie.
Tu as écrit une vidéo sur comment arrêter de procrastiner. Alors je vais te poser la question ici, comment on fait pour ne pas procrastiner?
Oh, punaise, cette vidéo, je crois que je l'ai fait il y a quelques temps, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai raconté. Moi, je pense que les choses qui sont importantes pour nous, vraiment, on les fait. C'est-à-dire, on est déjà en train de les faire. La procrastination, pour moi, c'est une invitation peut-être à regarder un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de nous avant d'agir. Donc aujourd'hui, je sais pas si c'est ça que j'ai dit dans la vidéo, donc peut-être je me contredis ici.
C'est pas grave.
Mais moi je dirais aujourd'hui, si vous arrivez pas à passer à l'action, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, au lieu de vous taper dessus en disant mince, je procrastine, il faut que je m'y mette, déjà posez-vous un petit peu et regardez qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Parce que c'est peut-être juste ça qui vous manque encore, c'est-à-dire c'est l'idée de « non, j'arrête d'être dans l'action tout le temps, je ferme les yeux, par exemple je médite 1 heure par jour, et je vois qu'est-ce qui se passe, à l'intérieur de moi. Et à la fin de cette heure de méditation, je me dis, ok, si je devais faire une action, ça serait laquelle? Ça veut dire que c'est beaucoup plus utile, focaliser l'énergie sur une chose qui est vraiment au cœur, au lieu de dire, ah, j'ai ceci à faire, ah, mais merde, je devrais faire ça, et je suis tellement nul parce que j'y arrive pas, et blablabla, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je dirais, c'est de pas, de faire confiance que si vous repoussez des choses, c'est que c'est pas encore le moment. C'est tout. Et que, le moment où tu as quelque chose qui te tient à cœur, tu le fais. Sauf que si vous avez 20 ans ou 21 ans et que vous avez une société qui vous met une pression dingue pour dire vous devez avoir trouvé le sens de votre vie et vous devez tous être passionnés et ceci et cela, c'est souvent des gens qui l'ont pas trouvé qui vous racontent ces conneries et que le sens de sa vie et ça se construit. Ça se construit, ça peut durer 5, 10, 20 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé une partie avec Ecosia, mais s'il faut, dans 3 ans, 4 ans, je suis plus sur Ecosia parce qu'il y a autre chose qui m'appelle. Donc c'est se lâcher un peu la grappe et de dire que sortir du système et suivre votre cœur, c'est quelque chose qui prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est les rencontres que vous allez faire qui vont peut-être vous donner des petites pistes sur qu'est-ce qui vous nourrit vraiment. Moi, tu vois, la dernière vidéo que j'ai fait où j'ai parlé de c'est comme si vous redécouvrez qu'il y a une petite flamme en vous, mais au départ c'est une petite bougie, donc si vous soufflez trop dessus, elle risque de s'éteindre. Donc il faut en prendre soin, faut mettre des petites brindilles pour que ça prenne un peu plus, et au fur et à mesure de vos expériences, vous allez en faire un vrai feu de joie qui va brûler, tu vois. Mais c'est pas quelque chose de, en tout cas pour moi, qui aussi était évident. Surtout quand vous changez, tu vois. Moi, la passion que j'ai eue, c'était le rugby. Je l'ai joué à fond. Je suis allé au bout de quelque chose. Et quand vous êtes arrivé au bout de quelque chose, ben après il y a déjà un peu de vide, vous savez plus. Et ce qui est difficile, je crois, actuellement, notamment pour des jeunes qui ont fait des études, qui ont cru, c'est que tout ce système-là, aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive au bout de quelque chose, et il n'y a pas beaucoup d'alternatives actuellement. C'est la seule chose qu'on voit, c'est que les politiques et les grandes entreprises essayent de nous convaincre qu'il faut continuer comme on a l'habitude de faire, sauf que maintenant on sait tous que c'est plus le chemin à prendre, tu vois. Donc juste d'être patient et de se dire, si vraiment vous procrastinez, c'est peut-être juste que vous n'avez pas encore trouvé quelque chose que vous avez envie de faire, et c'est ok. Dans ce cas-là, on explore un petit peu, on va rencontrer des gens et on va bien voir.
Tu dis souvent qu'il faut sortir de cette bulle de consommation dans laquelle on vit pour s'éclater davantage, et au contraire, la société nous vend l'idée que consommer nous permet d'être plus heureux et plus épanouis. Donc en quoi cette bulle de consommation, justement, nous empêcherait de nous éclater dans la vie, selon toi ?
Moi, je crois qu'il y a, la surconsommation, surtout, c'est quelque chose, en tout cas de mon expérience, qui rend pas heureux à terme, parce que on comble un vide à un moment donné avec quelque chose, mais au lieu de se confronter à ce vide, on fait genre il n'existe pas et je vais vite le remplir avec quelque chose. Et ça, pour moi, c'est juste la définition de l'addiction. Et pour ceux qui connaissent le phénomène addictif, c'est pas quelque chose qui vous rend heureux au final. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous craquez et vous sentez bien que ça vous fait pas du bien. Et le chemin de se désintoxifier de quelque chose, ça peut être la consommation, ça peut être le sucre, ça peut être des choses plus difficiles comme, je sais pas, le tabac ou des choses comme ça. C'est pas facile, tu vois. C'est vraiment pas évident. Mais on se reconnecte en faisant ça à une paix intérieure qui, ça vaut le coup en fait, tu vois, t'es beaucoup plus en paix avec toi et tu peux te regarder dans le miroir sans te détester et sans te dire quitter toi, voilà, et ça c'est quand même super agréable, tu vois. C'est peut-être un long chemin, mais ce que moi je trouve triste, c'est qu'on a construit une société qui utilise le phénomène de l'addiction pour vendre, pour s'enrichir, mais ça a plus trop de sens en fait, tu vois. C'est que l'argent, on le sait très bien, ne rend pas heureux. Après, il faut quand même relativiser en disant que ben il y a des gens qui n'ont pas assez à manger, qui ont besoin d'argent un minimum pour vivre. Et ça, il faut l'entendre aussi. Donc, c'est ceux qui peuvent se poser la question de comment sortir de cette société de consommation sont déjà privilégiés. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans notre société, mais aussi dans le monde, qui peuvent même pas se poser la question parce que c'est au jour le jour, est-ce que j'ai assez à manger, tu vois? Donc, la seule chose qu'on peut faire quand on a un privilège comme ça, c'est au moins de le saisir et de se dire, ok, j'essaye vraiment d'en faire quelque chose et pour que je puisse aussi, au final, faire profiter le monde de ça, quoi.
Ton mantra, si on peut dire, c'est « oser la liberté ». Alors, ça a éveillé en moi deux questions. Mm-hmm. Qu'est-ce que la liberté, selon toi, et comment on l'ose, cette liberté ?
Alors, c'est vrai que c'est difficile à définir. Je crois qu'aujourd'hui, la liberté, c'est quand on a le choix de choisir sa prison.
Sa prison ? C'est une belle liberté.
Ouais, c'est en fait on a tous un cadre de vie, on va dire au-delà de prison, hein, mais c'était un peu provocateur ce terme, on a tous un cadre dans lequel on vit. Que ce soit la maison dans laquelle tu vis, c'est un cadre. Que ce soit le métier que t'as choisi, c'est un cadre. Et je crois que quand tu as quand tu peux choisir celui que tu veux parce que t'as consciemment la possibilité de changer si tu veux, de le choisir, d'avoir la capacité mentale à dire je change de métier par exemple, je crois que ça crée une liberté incroyable. Et après, mine de rien, je le vois de plus en plus dans notre société actuelle, il y a quand même quelque chose qui est lié au financier. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on peut plus le nier. En fait, quand tu as des moyens financiers, c'est pas trop le fait que tu puisses que tu peux acheter une voiture qui te rend libre, c'est plus la possibilité de, c'est-à-dire si demain tu as besoin de quelque chose, tu peux. Et ça, c'est une vraie liberté en fait, toi. C'est que si demain, si tu es dans une situation où t'as deux crédits, quatre gamins et un métier qui paye pas très bien, tu es dans un cadre c'est très difficile à en sortir. Même si tu veux, tu vois, tous les trucs de développement personnel, ça devient très très compliqué quand t'es dans une situation comme ça. Ça veut pas dire que t'as pas la liberté, mais saisir la liberté devient de plus en plus difficile et souvent t'as besoin d'aide pour en sortir, tu vois.
Je vois que ça fait déjà 38 minutes, donc je vais passer à la dernière question.
Ça passe vite.
Même si j'en aurais plein d'autres. Ça passe trop vite, ça passe beaucoup trop vite. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Qui est quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui?
J'ai vu que tu posais cette question et je me suis dit mince, parce que en tant que bon permaculteur, c'est très difficile de donner un conseil. C'est souvent, ça dépend en fait la personne qu'on a en face. Et je fais très attention à donner pas des conseils trop généralistes parce que ça dépend vraiment de la personne. Moi, j'aurais envie de dire, notamment si c'est à des jeunes d'aujourd'hui. C'est de pas trop écouter les conseils des anciens ou des vieux, notamment comme moi.
Ah mince, c'est tout mon travail d'aller chercher ces conseils-là, alors s'il faut pas les écouter, je suis bien embêtée.
Bah, en fait, vous vous rendez pas compte, la jeune génération se rend pas compte à quel point vous avez là une vérité en vous que les anciens n'ont pas. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que, allez, je vais quand même donner un conseil. C'est plus, avant d'écouter le conseil de quelqu'un d'autre, écoutez votre vérité intérieure.
Ok, c'est pas mal. J'aime bien. C'est un beau conseil.
Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que tous ceux qui ont construit le monde dans lequel on est maintenant, qui se termine, ils pensent comme avant, en fait. Et les seuls qui peuvent penser différemment, c'est ceux qui sont en train d'arriver maintenant sur cette belle planète et qui sont pas encore brainwashés par tout le système.
Fabuleux. Écoute, Ferdinand, merci beaucoup pour ce temps. C'était super intéressant. J'espère que ça va parler chez beaucoup.
Ben avec plaisir. Merci à toi.
Salut.
Ciao.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.